Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver pour 2 heures d'infos, 1 heure consacrée aux médias. La deuxième heure, nous la consacrerons au départ de Gérard Collomb du gouvernement, à la crise au gouvernement. Appelez-nous 0826 300 300. Aujourd'hui, nous aurons en studio avec nous le patron des programmes de Canal+, du groupe Canal+, Gérald Brice-Viré, qui chapeaute toutes les chaînes du groupe Canal, directeur général des antennes. On va parler avec lui des programmes du groupe, de la santé financière, de ce qui marche, de ce qui marche moins bien. Et puis, c'est un petit peu une émission tout Canal+, aujourd'hui, puisqu'on va parler du Bureau des légendes. J'espère que vous avez déjà regardé cette série absolument géniale. On aura Bruno Fulini, qui a écrit un livre qui est un véritable manuel d'espionnage, le Bureau des légendes décrypté. Il nous explique tous les petits secrets des services secrets. Enfin, peut-être pas tout, mais en tout cas, une bonne partie, beaucoup de choses passionnantes. Allez, on commence avec les audiences. Bonjour Rémi, bonjour Gilles.
Bonjour Valérie.
Bonjour Valérie.
Merci d'être là et de m'accompagner tous les matins. Alors, on commence avec les audiences, Rémi.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias, découvrons les audiences.
Le carton,
Le carton, oui, hier, attendu encore et encore pour Good Doctor sur TF1. 6 560 000 téléspectateurs pour les aventures de Sean, le médecin autiste de l'hôpital de San José. Et écoutez, c'est encore 50 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. En fait, cette série est en progression régulière depuis son lancement. Mais on comprend, c'est quand même très très bien
très
fait.
Très réussi, oui. Absolument. Le Gadin.
Alors le Gadin, c'est pour C8 avec le film Les Aventures d'Alel Blanc-Sec. Seulement 406 000 téléspectateurs. Mais il est vrai que le film a commencé à 21h25. Et puis alors il y a une déception aussi pour France 2 avec les deux derniers épisodes de la série documentaire Histoire d'une Nation. Ouais. Seulement 1 881 000 téléspectateurs. 7,9% de part de marché, c'est pas beaucoup pour la première partie. C'est 300 000 de moins que la semaine dernière. C'est peut-être difficile de décliner un sujet aussi exigeant sur deux soirées différentes. Ouais. La première soirée, les gens sont venus, mais après, il faut se dire, bon, allez, j'y retourne. Voilà, c'était intéressant, ambitieux, peut-être un peu trop.
Oui. Et puis, la surprise.
Les surprises, ce sont les scores en hausse des talk-shows d'Access qui remontent. Quotidien est en tête avec 1 458 000 téléspectateurs pour Yann Barthès, qui recevait hier Bradley Cooper, qui parle bien français. 1 310 000 téléspectateurs pour Cyril Hanouna, qui recevait lui Kev Adams et Jamel Debbouze, qui ont fait vraiment le show. Et puis 1 034 000 téléspectateurs pour C'est à vous sur France 5. Anne-Elisabeth Lemoine recevait les avocates de Jacqueline Sauvage. Donc tout le monde au-dessus du million, ce qui n'était pas le cas en début de saison.
C'est l'effet météo.
Oui, c'est ce que j'ai dit. L'hiver arrive.
Petit à petit,
les
téléspectateurs vont revenir devant la télé.
Les horaires n'ont pas changé. Les émissions commencent toujours
toujours en retard, il n'y a pas de problème. TF1 21h12, France 2 21h07, France 3 21h06, M6 21h09, C8 donc qui gagne le concours hier soir 21h24, TMC 21h20. Et puis les bons élèves, W9 est à 21h05, c'est presque à l'heure. Et puis Arte 20h52 et France 5 20h53. Mmh. Alors pour le débrief des pronostics, tout le monde a gagné, puisque Good Doctor, on l'avait tous gagné, donné en tête. Alors le téléfilm La Loi de Marion, nous l'avions pronostiqué deuxième, il est deuxième sur France 3 largement, avec 3 110 000 téléspectateurs. Il me semble que seul Gilles avait donné un score différent, et que donc je crois que vous avez perdu hier.
Comme à chaque fois, tous les jours.
J'ai assez d'avance pour perdre.
Oui. On fera les comptes.
D'avance en quel domaine ?
Gilles, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Rémi, vous en parlez hier dans Quotidien sur TMC. Eh bien, l'émission recevait le comédien Bradley Cooper. Waouh, il parle français en plus.
Mais comment vous faites pour avoir ce niveau de français ?
J'ai étudié à Aix-en-Provence.
Oui, alors ça je le savais, mais c'était quand ?
Ah, c'était longtemps, hein.
Ben oui.
Ouh là là.
Mais comment vous gardez ce français?
J'habite ici à Paris. Hein. J'ai passé le mois d'août. L'adresse, c'est... Non,
Et vous prenez des cours?
Pas encore, mais j'ai fait mes études pendant 6 mois là-bas à Aix.
Enfin, vous me mettez 6 mois en Espagne, je ne vais pas revenir à parler espagnol.
Je ne sais pas pourquoi. Hein. Peut-être j'ai un... J'ai pas inquiété à faire le défaut, hein. Tu sais, je peux communiquer, hein. Je sais que ma grammaire, c'est débile, mais je veux communiquer. Et c'est pourquoi je fais de la répétition toujours. Je parle français avec quelqu'un qui va me parler ensemble tout le temps. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent français. Ah, peut-être.
On n'en a jamais reçu. Hein.
Jamais.
Ah oui. Mais quel menteur, ce Yann Barthès. Bon, ouais. Il devait être perturbé par Brettler. Je voulais que je fasse mon Yann Barthès.
Oui.
J'entends le placard à archives. La semaine dernière, Ryan Gosling dans Quotidien.
Est-ce que je peux vous demander votre mot préféré en français ?
Bonhomme de neige.
Ah, vous voyez, il y a d'autres Américains qui parlent
alors
français.
C'était le seul mot qu'il connaissait, un bonhomme de neige, Ryan Gosling.
Donc les niveaux, un peu de mauvaise foi.
Oui, mais la façon dont il dit, on dirait tout un poème. Dans cette semaine,
c'est un autre sujet.
Cette semaine, avec la diffusion du téléfilm sur Jacqueline Sauvage, les deux anciennes avocates qui n'avaient pas réussi à convaincre les jurys populaires de la légitime défense font quand même le tour des plateaux comme des stars. Hier, elles étaient dans C'est à vous devant un Patrick Cohen dubitatif.
Vous avez au Canada en 1990 un cas absolument similaire. Une femme, une nuit d'une énième violence, elle tire sur son mari avec un fusil de chasse. Le mari est de dos. Elle le tue. Il y a un expert donc, qui est nommé et qui, lui, est spécialisé, qui est spécialisé en matière de psychotrauma. Cette femme a été acquittée. Les Canadiens sont-ils plus stupides que nous ?
Non.
Je vous pose la question.
Ils n'ont pas les mêmes règles, ils n'ont pas la même...
Mais le cas pénal a été modifié.
Modifié 20 ans après.
On avait exactement les mêmes critères de concomitance et de proportionnalité à l'époque où Angélique Lavallée a été acquittée. Vous voyez, on assiste exactement en France à ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution très longue.
Ils ont fait le tour des télés.
Oui, ils ont fait le tour des télés et elles ont quand même face à elles l'avocat général qui a publié une tribune dans Le Monde qui est assez convaincante sur qui est Jacqueline Sauvage. Et je pense qu'il y a eu effectivement ce qu'il dénonce, un emballement médiatique. Et que les choses ne sont pas aussi manichéennes qu'on pourrait le penser, ne serait-ce que dans le documentaire qui a suivi le téléfilm, un des enquêteurs expliquait qu'elle avait la lèvre fendue, elle n'avait pas le visage qu'avait Muriel Robin dans le téléfilm, c'est-à-dire explosé. On nie pas les violences de Jacqueline Sauvage, mais il dit qu'il faut peut-être remettre les choses un petit peu en place.
Et pour revenir sur le point des avocates, Luc Frémiot, l'autre jour, le substitut général de la Cour d'appel de Douai, qui était dans cette émission, nous expliquait que le type de défense des avocates qui voulaient à tout prix faire accepter le concept de légitime défense différée, a fait que juridiquement, il était impossible que Jacqueline Sauvage soit condamnée à autre chose que la même peine en appel. Et donc, voilà, c'est
maintenant... Philippe Bilger est sur la même ligne.
Oui, et donc maintenant, elles font le tour des plateaux, mais je ne sais pas si elles ont de quoi, parader en disant, leur cliente, à qui elle devrait penser, elle a pris les 10 ans, peut-être à cause de système de défense.
Oui,
j'avance un peu, mais je redis
ce
que disait Luc Frémiot.
Chez Hanouna, sur C8, on ne dit plus TPMP, on dit chez Hanouna. Donc hier, Jamel Debbouze était l'invité, vous en avez parlé Rémi. Et la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez Valérie, quand ils avaient été invités, ils avaient débarqué sur le plateau de Pascal Pro, qui était en direct juste à côté. Et il avait plutôt mal réagi. Et Jamel Debbouze est revenu hier sur Pascal Pro.
Jamel, est-ce que tu te souviens quand on est allé sur le plateau de CNews, d'Italie ?
Avec Pascal Pro qui était vénère. Quel imbécile.
On va finir sur ça. Il est gentil.
Non, c'est un imbécile.
Non, arrête. On termine pas sur ça.
Pascal Pro, si tu m'écoutes. T'es un imbécile.
Il est sympathique.
Mais c'est vrai qu'il était vénère de nous voir arriver.
Ouais, ça va.
Et on lui a dit, mais tu fais 20 000 spectateurs.
Et je vous jure que à l'époque, je vous jure que c'était l'IRK. C'est le record historique.
Cyril, il est rentré dans son plateau, il a fait 900 000.
Je sais, mais c'est vrai. Ouais. C'est le record historique.
Moi,
je vous jure, dit-elle.
C'est qu'il vous dit vraiment de partir comme quand on était petit, quand on va chez des gens.
Ouais. Vous n'êtes pas chez vous.
Mais il est content, Pascal Pro, ce matin. Peu de score et imbécile, voilà.
Enfin, il cartonne. C'est une des tranches de CNews
quand on fait une chaîne d'infos, de voir des gens qui déboulent pendant qu'on est en train de faire des infos, ça peut être un moment grave. Oui, mais je comprends quand même la réaction de Pascal Pro. Je pense que c'est pas parce que Cyril Hanouna est sur C8 à côté qu'il a absolument tous les droits sur tous les plateaux qui sont autour de là où il est en train de travailler.
Vous poserez la question à Gérald Brice-Viré tout à l'heure.
Non, on peut avoir de l'humour.
Allez.
Ridicule, mais vraiment ridicule. Et C'est à vous, hier, a fait un très très bon sujet sur les chaînes infos qui ont mis du Aznavour, mais allant dans tous leurs titres. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Ouais.
Écoutez, c'est juste ridicule.
Il se voyait déjà quitter la place Beauvau. Hier encore, Gérard Collomb présentait sa démission au président de la République, mais Emmanuel Macron l'a refusé. Une vague formidable d'émotions, d'hommage après la mort de Charles Aznavour, de Paris à Yerevan en Arménie jusqu'aux États-Unis. Emmenez-moi au salon de l'auto, la 120e édition est dans les starting blocks. Vous goûterez au plaisir pas tout à fait démodé de la voiture futuriste.
Emmenez-moi au salon de l'auto. Ouais,
et ils ont tous eu les mêmes idées de faire une revue de presse. Hier, j'écoutais avec...
Le journal L'Équipe a fait ça. Le journal L'Équipe a fait tous ses titres avec une référence, un titre de Charles Aznavour. Et ils avaient fait la même chose pour Johnny Hallyday. Oui, et on ne s'était pas indigné quand c'était Johnny Hallyday. C'est marrant qu'on s'indigne quand c'est Charles Aznavour.
Non, pas pour L'Équipe. C'est autre chose. L'Équipe, c'est autre chose. Mais les titres de l'info, c'est vrai que c'est un peu... Voilà. C'est tout, c'est fini. C'est déjà pas mal. Bon, bah écoutez, on va se retrouver on va se retrouver dans un instant avec Bruno Fuligny qui va nous parler, qui va nous décrypter le Bureau des légendes, la formidable série de Canal+. Voilà, c'est à suivre. Restez avec nous sur Canal+, sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On était déjà en train de commencer à débattre et à parler avec Bruno Fuligny. Bonjour Bruno Fuligny, merci d'être avec nous. Vous êtes un historien du renseignement. Vous connaissez tout sur les services de renseignement et vous publiez aujourd'hui même le Bureau des légendes décryptées. Alors le Bureau des légendes, c'est cette formidable série sur Canal+. Nouvelle saison le lundi 22 octobre, ça a été annoncé hier. Ce livre, c'est génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, si on aime la série, on va être absolument passionné parce que vous servez de la série en fait pour décrypter, expliquer comment fonctionnent dans la vie réelle les services de renseignement.
En effet, parce que c'est une série qui est très réaliste, qui rompt complètement avec la mythologie des James Bond, qui montre comment fonctionne vraiment un service de renseignement, et spécialement, en réalité, la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui est le service de renseignement extérieur français. Et puis, le créateur de la série, Éric Rochant, et son équipe de scénaristes, eh bien, se sont énormément documentés. Et ça se sent. Donc moi, j'ai voulu faire le travail inverse, un petit peu comme quand on décrypte un message codé. C'est de partir de la série, d'un certain nombre de scènes, ou d'échanges, ou de références, pour zoomer dessus et dire, voilà, ça s'inspire de telle affaire, ça s'inspire de telle technique réellement utilisée dans les services de renseignement. C'est-à-dire que cette série est vraiment une introduction au métier d'espion et à l'histoire de l'espionnage aussi.
Elle est vraiment très réaliste, la série. C'est-à-dire que tout est plausible et vraiment d'un point de vue d'un spécialiste du renseignement.
Alors, tout est plausible. D'abord, les locaux. Les locaux que l'on voit dans la série, évidemment, sont des locaux fictifs, en studio, mais ils ressemblent énormément aux véritables locaux de la DGSE. Ensuite, l'organisation. Et c'est là qu'il y a une rupture avec tous ces films où on voit une sorte de super-héros, de super-aventurier. Non, tous les professionnels du renseignement vous diront que le renseignement, c'est un travail collectif, avec toutes sortes de spécialistes qui coopèrent ensemble, de façon cloisonnée. Ça, c'est aussi une règle de base qui est bien expliquée dans la série, avec la notion du besoin d'en connaître. Et donc, il montre finalement le quotidien de ces fonctionnaires, car pour la plupart, ce sont des fonctionnaires, il y a aussi quelques contractuels, qui font un travail, en fait, assez humble, assez ingrat, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire vraiment ce qu'ils font, leur succès reste en interne, qui ont des succès, parfois des échecs, mais qui travaillent de façon finalement collective et très souterraine.
Ouais.
Et vous montrez dans le livre qu'il y a beaucoup de clins d'œil dans la série Le Bureau des légendes, ne serait-ce que dans les noms, par exemple, ou alors, c'est quand même assez drôle, on découvre Jean Delattre de Tassigny.
Oui, le patron.
Et alors, vous décryptez comme ça beaucoup de, qui sont des clins d'œil volontaires des
totalement,
scénaristes.
Totalement volontaires. Bien sûr, le grand patron dans la série est Jean Delattre de Tassigny, ce qui est évidemment un clin d'œil au maréchal Delattre de Tassigny, qui, entre autres choses, est le seul à avoir fait reculer les combattants indépendantistes vietnamiens, parce qu'il avait créé des groupements commando aéroportés en liaison directe avec le service action. Le personnage de Guingouin, donc cet homme qui est le responsable de la direction des opérations, donc des opérations spéciales, qui peut enclencher le service action dans la série. il est quasiment homonyme de Georges Guingouin, qui a été un très grand résistant. Alors lui, c'était un instituteur communiste, le Guingouin historique, mais il est surtout resté dans l'histoire comme un génie de la guérilla et du sabotage, puisqu'il a tenu en échec, excusez du peu, la Wehrmacht. Donc il y a comme cela plein de références, et ça va très loin. À un moment, les comédiens commandent des sushis, donc vous voyez, c'est tout à fait banal. Mais il y a un dépliant, alors on le voit à peine, mais le nom du restaurant, c'est Naicho. Et Naicho, en japonais, ça veut dire secret de famille, c'est le nom du principal service de renseignement japonais.
Donc des petits clins d'œil comme
ça. Et en fait,
ça,
que seul vous pouvez décrypter, en vérité. Ouais, pas seulement moi, mais ceux qui connaissent l'histoire du renseignement et ceux qui aiment, évidemment.
Les agents et vous, on va dire.
Ce qui est incroyable...
Donc la série a été vendue dans plus de 100 pays, oui. Donc il y a un intérêt réel, c'est une série très réussie. Il y a une formidable préface d'Éric Rochon qui dit « Le Bureau des légendes est-il un hommage à la DGSE ?» Vous le prenez comment, vous? Ou alors après, il continue la phrase, vous prend-il la DGSE comme le bon prétexte d'une histoire humaine? C'est un hommage quand même à nos services secrets, cette série?
Disons que les services secrets français ont eu pendant longtemps une image déplorable. Ouais. Au temps du SDEC, et puis après, au début de la DGSE, il y a eu des affaires vraiment terribles, type le Rainbow Warrior, qui ont fait que, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Russie, en Allemagne, les Français avaient eu une très mauvaise opinion de leurs services de renseignement. Avec la montée du terrorisme, les choses ont changé. Et maintenant, que ce soit le renseignement intérieur des GSI ou renseignement extérieur des GSE, leur image a évolué. Et puis eux-mêmes ont appris à entrouvrir un petit peu leurs portes. Il y avait une tradition du secret absolu en France qui fait qu'on ne connaissait que les ratages. Aujourd'hui, les services de renseignement, lorsqu'ils sont sollicités par un scénariste, par un historien, par un écrivain, peuvent entrouvrir la porte, vous montrer quelques locaux, quelques archives. Ce n'est pas grand-chose, c'est un début, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi de montrer la réalité de leur métier et pas uniquement les dérives.
Oui. Alors, moi, je voulais... Alors, déjà, votre livre, il est fait avec la DGSE. Alors, finalement, est-ce que c'est un outil de propagande ou les vrais secrets, on ne peut pas les révéler? Quels secrets vous n'avez pas mis dedans? Moi, je veux savoir.
Je vous rassure, il y a toutes sortes d'affaires en cours qui ne sont pas sur la place publique et auxquelles on n'a pas accès. Moi, j'ai voulu simplement poser les bases du métier. Qu'est-ce que c'est que la DGSE? Est-ce que c'est le seul service français? Non, il y en a 6 autres. Comment ça fonctionne? Comment fonctionne un service de renseignement? Comment les services français...
Ça existe, les gadgets chez les espions?
Oui, ça existe. Ça existe, alors, bien sûr.
Donnez-moi deux gadgets qu'on a.
Il y a dans le livre.
Il y en a beaucoup. Vous savez, par exemple, moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle les containers. Un container, ça peut être un tout petit objet, une pièce de monnaie, un stylo, une pipe, n'importe quoi. Mais en fait, ça se dévisse et à l'intérieur, il y a un compartiment secret dans lequel vous pouvez dissimuler un message codé, un microfilm, ce genre de choses.
Ah, ça existe encore, le microfilm?
Ça existe encore. Bah, ça peut rendre service. Ça peut rendre service. Mais vous pouvez aussi dissimuler une puce électronique tout aussi bien.
Il faut dire que le livre est très documenté. Il y a énormément d'illustrations. C'est très ludique. Je pense que ça peut plaire de 7 à 77 ans.
Ah oui, le livre est formidable.
Il y a beaucoup de... Et là, par exemple, j'ouvre un peu au hasard le transport des renseignements, mais on voit les sous-vêtements féminins à poche secrète. Il y a la coquille de noix. Il y a un chapitre aussi qui est consacré aux encres sympathiques.
Oui,
quelques
recettes.
Absolument.
Faites-vous-même votre encre sympathique.
Moi, je me souviens que je faisais ça avec du jus de citron.
C'est la recette la plus simple. Ouais. Alors, le problème, c'est que le jus de citron, ça a une odeur, donc ça se repère facilement. Et puis, pensez aussi que si vous êtes en mission à l'étranger, il ne faut pas que vous ayez sur vous des produits chimiques trop compromettants. Donc, il y a des recettes très simples avec des produits, genre produits de beauté ou produits de consommation courante. Par exemple, si vous avez un cachet d'aspirine, que vous le faites se dissoudre, non pas dans de l'eau, mais dans de l'alcool à 90, eh bien, vous produisez une encre sympathique de très bonne qualité. Et personne ne vous reprochera jamais de voyager avec un cachet d'aspirine et un petit flacon d'alcool à 90. Vous voyez, c'est ça qui est fascinant dans le monde de l'espionnage, c'est comment, avec des objets d'une banalité affligeante, vous pouvez réussir à dissimuler des messages secrets, par exemple.
Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Bruno Fulini. Vous ne regarderez plus jamais le Bureau des légendes de la même manière après avoir lu ce livre qui paraît aux éditions L'Iconoclaste et aux éditions The Oligarch Editions. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio en direct pendant 2 heures jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. Dans quelques instants, nous serons en compagnie du patron des programmes de Canal+, du directeur des antennes, Gérald Brice-Biré. Et nous continuons notre discussion avec Bruno Fulini, qui est donc un spécialiste du renseignement, qui publie aujourd'hui même le Bureau des légendes décryptées aux éditions L'Iconoclaste et The Oligarch Edition. C'est difficile à dire. Un livre livre vraiment formidable qui nous a passionnés. Rémi, vous êtes, vous, rentré dans le détail des différentes... C'est un manuel, hein, c'est
oui,
vraiment...
Oui, absolument. Et puis, on fait sans arrêt l'aller-retour entre la série et puis le bouquin. Et notamment, par exemple, moi, quelque chose qui m'interpellait, c'était le personnage de Cochise dans la série, qui est donc un très haut cadre du régime de Saddam Hussein et qui, en fait, devient un agent des services secrets français. Et ça a existé, c'est ce que vous expliquez. Enfin, c'est possible et ça a existé.
Disons qu'avant la guerre du Golfe, le régime laïque de Saddam Hussein, le régime baasiste, avait des relations suivies avec la France. Et donc, il est resté quelques liens, à une époque, entre les services de renseignement extérieur français et des cadres du régime. Ce qui s'est passé avec Daesh, c'est que d'anciens officiers ou d'anciens cadres d'un régime laïque sont passés, parce qu'ils étaient sunnites en fait, sont passés sous les couleurs d'un califat autoproclamé islamique. Mais ça, on a mis certains dans des positions un petit peu intermédiaires et c'est ce qu'exploite la série. Là aussi, ils partent d'une réalité géopolitique, hein, cette situation incroyable d'anciens cadres bassistes qui deviennent islamistes, mais qui peuvent avoir des connexions anciennes et réactivées.
Mais là, vous me dites que c'est plausible, mais est-ce que
c'est totalement plausible ?
Est-ce que ça existé, est-ce que vous le savez ?
On l'a dit.
Alors, vrai manuel, hein, avec des leçons, peut-on tromper le polygraphe ? Le polygraphe,
c'est ce qu'on appelle le détecteur de mensonges. On peut le tromper, parce qu'en fait, le détecteur de mensonges ne détecte pas les mensonges, il détecte votre réaction physiologique lorsque vous mentez. Alors, ça varie selon les personnes, je dirais ça varie aussi selon les cultures, il y a des cultures dans lesquelles c'est très grave de mentir, bon, d'autres où on s'arrange un petit peu. Alors, en fait, le polygraphe mesure à la fois votre transpiration, votre rythme cardiaque, votre respiration aussi. Et donc, tout ça est transcrit pour dire, voilà, à ce moment-là, il ment, à ce moment-là, il est stressé, il ne dit peut-être pas la vérité. De très grandes taupes, par exemple, Ames, qui était la taupe numéro 1 des soviétiques au sein de la CIA, est passée plusieurs fois au polygraphe, et on s'est dit, non, pas de problème, il dit la vérité, il ne ment pas. C'est-à-dire qu'un professionnel de la dissimulation va apprendre à surjouer des mensonges sans importance pour que ces vibrations, si j'ose dire, sur les questions plus délicates, paraissent anodines.
Mais ça existe le pain total ? Je me fais une petite piqûre et je suis obligé de parler.
Ah, tout à fait. C'est un produit. Alors c'est le nom. Comment dirais-je
le
nom.
C'est ce qu'on a
commercial.
Mis dans le café pour Gérald Brisbois.
Voilà. Il faudrait le donner à tous vos invités. Mais
je sens que ça agit.
C'est plutôt en injection d'habitude. Mais sinon, les Russes utilisent tout simplement l'alcool à haute dose. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la saison 1 de la série. Il y a un clandestin en Algérie qui disparaît. Il est ivre mort au moment où il disparaît et on se demande si tout simplement on ne l'a pas fait boire à l'excès. Méthode ex-soviétique et russe qui donne toujours des résultats intéressants.
Alors, ce qui est formidable, encore une fois, dans le livre, hein, extrêmement documenté, beaucoup d'images, des archives incroyables, c'est que vous faites l'aller-retour avec la série. Et on voit par exemple Mathieu Kassovitz et en face, et la légende, faites bien attention, le polygraphe ne peut pas tout, ce type est doué, il peut nous faire avaler tout ce qu'il veut. Et là, vous expliquez comment on peut faire avaler tout ce qu'on veut.
Et puis un détail intéressant, c'est que dans la série, pour des raisons techniques, il est interrogé par la CIA, mais en fait c'est un polygraphe russe qui est utilisé. Donc là, il y a un petit détail technique qui est amusant.
Vous pouvez vous amuser, vous, en regardant la série.
C'est quoi votre prochaine mission, alors, cher agent secret ?
Infiltrer Sud Radio.
Voilà. Et puis la leçon numéro 18, comment devenir un professionnel du renseignement ? C'est ce que nous sommes, nous, ici. Voilà. Voilà.
C'est
vraiment. Donc, je précise que la série, ça a été annoncé hier par Canal+. La nouvelle saison démarre le 22 octobre prochain, donc lundi 22 octobre. Indispensable de se procurer
quatrième
le
saison.
Livre. Oui, Le Bureau des légendes décryptées, c'est passionnant, aux éditions L'Iconoclaste. Merci Bruno Fuligny d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On va passer à l'invité du jour.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
Et l'invité du jour, on reste dans la maison Canal+, puisque est avec nous en studio Gérald Brisviret. Bonjour, vous êtes directeur des antennes du groupe Canal+. Merci d'être là ce matin. Alors, en général, on a une star de télé qui vient. Alors, on est ravis de vous avoir. Vous êtes une star à vous tout seul. Et alors, il y a l'instant Google. Vous savez, je l'ai fait pour vous parce que ça m'amusait de voir. Donc, Gérald Brice, c'est un prénom qui n'est pas très ordinaire quand même. Donc, arrive tout de suite viré. Donc, il n'y en a pas d'autre que vous. Gérald
Brice. Et pas viré, parce qu'en général, on me l'a fait
non.
Très jeune.
Mais alors, après, quand on tape Gérald Brice viré, les questions qu'on se pose à votre sujet arrivent tout de suite salaire. Ça vous étonne ou pas ?
Non, mais enfin, c'est bizarre, non ?
C'est bizarre. C'est, vous savez, quand on tape sur Google,
je vais essayer avec vous, Valérie.
Vous pouvez essayer. Vous avez trouvé Valérie Expert nu. Non. Plus sérieusement, merci d'être là ce matin pour parler de Canal+, du groupe Canal+. Mais Rémi, donc ce groupe qui a connu beaucoup de bouleversement depuis quelques années. Rémi Pernelet donc, a fait un petit point sur l'évolution du groupe Canal.
Oui Valérie, en fait, il faut savoir, à Canal+, la crise, c'est un peu une seconde nature. Déjà, ça a commencé le 4 novembre 1984, quand André Rousselet, le premier président historique de Canal+, appuie sur le bouton pour commencer à diffuser la première chaîne payante française pour ses 184 000 abonnés, à l'époque 120 francs par mois, 18,29 €, et ben la crise menace. À peine plus de 40 millions d'euros de prévisions de recettes d'abonnement par an, des bugs techniques à peine ouvertes, Canal+ est menacé de fermeture. De nombreuses personnalités politiques réclament la tête d'André Rousselet et la fin de Canal+ à François Mitterrand,
sans
succès. En fait, grâce au cinéma et au foot, parce que la chaîne cryptée est la première à proposer à ses abonnés les matchs de foot du championnat de Ligue 1, c'était la première division à l'époque, la chaîne progresse. Au bout de 5 ans, il y a plus de 3 millions d'abonnés. Canal+ affiche alors un bénéfice de l'équivalent de 120 millions d'euros, près de 15% du chiffre d'affaires, c'est un record. Alors 5 ans plus tard, nouveau parfum de crise, avec le limogeage d'André Rousselet, vous savez, Édouard Mathué, la fin de plusieurs émissions phares, le départ de quelques animateurs emblématiques, Antoine Decaune, Jean-Luc Delarue, Philippe Gildas. La succession de crises et de redémarrages devient un peu la marque de fabrique de Canal. En 2002, après pas mal de péripéties, Jean-Marie Messier, qui avait fusionné Canal+ et Vivendi, viré quelques poids lourds de la chaîne et généré quelques centaines de millions d'euros de pertes, est débarqué par ses actionnaires. Puis alors, en 2003, Canal+ entame une remontée spectaculaire avec l'acquisition de l'exclusivité de la Ligue 1 de foot, pour 600 millions d'euros quand même. Le succès du grand journal de Michel Denisot, qui renoue avec le statut d'émission de référence qu'avait acquis nulle part ailleurs. Thierry Ardisson arrive, Yann Barthès invente le petit journal. Et en 2011, le groupe rachète Direct8 et Directstar à Vincent Bolloré pour 280 millions d'euros. On en reparlera. En fait, on en reparle assez vite, puisque 4 ans plus tard, le même Vincent Bolloré rachète la totalité du groupe Canal+ pour 458 millions d'euros. Il me semble que c'est une bonne affaire, non ? Et puis, il commence à tout changer partout. Alors, le résultat est immédiat, c'est reparti pour un tour de crise. En 2 ans, Canal+ supprime les 2/3 de ses plages en clair, fait passer les guignols en crypté en attendant de les supprimer, pardon, purement et simplement, arrête le grand journal, perd les droits du foot anglais au profit de SFR, voit partir Yann Barthès, Ophélie Meunier, Grégoire Margoton. En novembre 2016, le groupe finit par reconnaître avoir perdu plus de 500 000 abonnés en un an. Puis alors, cerise sur le gâteau, cette année, Canal ne diffuse plus aucun match de Ligue des Champions. Pour voir le PSG, le Real, le Barça, le Manchester, il faut s'abonner à RMC Sport. Ça coûte une blinde, j'allais dire, un pognon de dingue, disent certains. Et dans 2 ans, la chaîne n'aura plus aucun match du championnat français. Ils ont été raflés par le groupe espagnol Mediapro pour les saisons 2020-2024. C'est un vrai coup dur parce que juste au moment où l'effet Neymar se faisait sentir, en ce moment, il y a une progression de 20% des audiences des matchs du dimanche soir depuis l'an dernier. Bref, comme disait Napoléon après Waterloo, la situation est grave, mais pas désespérée.
Bon. Elle est loin d'être désespérée.
Alors, grâce à Canal+, nouvelle tendance, avec l'abandon des rendez-vous traditionnels d'Access Prime Time en clair, on a vu se développer une nouvelle guerre des chaînes de la TNT. Un vrai feuilleton que, pour ma part, j'ai grand plaisir à suivre. C'est celui de la bagarre entre C8 et TMC. Aux manettes de TMC, Yann Barthès. Tiens, ça me dit quelque chose. Aux manettes de Canal+, de C8, pardon, version Vincent Bolloré, comment dire, Yann Barthès avait quitté Canal+, version Vincent Bolloré. Aux manettes de C8, Cyril Hanouna. Au fond, en observant l'évolution des programmes et des grilles, les passages d'animateurs stars d'une chaîne à l'autre, les investissements d'un groupe, je me pose une question. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire de C8 la vraie chaîne leader du groupe ?
Voilà, vous pouvez répondre déjà à cette première question.
Alors, c'est vrai que les tribulations que vous venez d'expliquer, c'est l'histoire de l'audiovisuel. Vous auriez pu faire la même chose sur le service public.
Rassurez-vous, c'est prévu.
Et sur d'autres groupes audiovisuels. Ce qu'on oublie là, dans tout ce que vous avez dit, c'est l'abonné de Canal+. Et les abonnés de Canal+, ils payent pour avoir le cinéma en avant-première, le foot. Alors, effectivement, on en parlera dans 3 ans, dans la troisième saison, on a à date pas les droits de la Ligue 1, mais on va y revenir. C'est aussi nos séries, nos créations originales et tout ce qui fait le premium de Canal+. Et nos abonnés vont bien, je vous rassure, et on regagne des abonnés. puisqu'on a pu donner ce chiffre. On a plus de 270 000 abonnés qui sont revenus sur Canal+. On a mis en place un nouveau modèle.
Il y en a combien qui étaient partis ?
Écoutez, en tout cas, il y en a plus qui sont arrivés qu'ils ne sont partis. Puisque, par exemple, on a...
Vous avez inversé...
Le chiffre de 542 000, c'est vous qui l'aviez communiqué.
Alors, ce n'est pas moi,
personnellement.
Moi, je ne m'en occupe pas. Et en fait, je peux
c'est
dire...
Ce n'est pas vous qui comptez avec un chronomètre.
C'est plusieurs millions de Français.
Non, mais il y a eu un moment où, effectivement, on a parlé d'une véritable des abonnés.
On a mélangé plusieurs plateformes avec Canal Play, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'abonnement, Canal+ va bien. Et je vous le dis, vous aurez les chiffres en fin d'année et nos abonnés le savent. On a revu toute notre formule d'abonnement et c'est Franck Adoré à la distribution. Aujourd'hui, on peut s'abonner sans engagement à partir de 19 euros. Pour les moins de 26 ans, à partir de 9,90 euros, moins de 10 euros. Il y a toute une multiple forme d'abonnement qui permet plusieurs types d'abonnements. Et aujourd'hui, Canal va bien sur ses principaux piliers. C'est-à-dire le cinéma, 400 films par an. Je le redis, en avant-première, avant les télévisions classiques. Et là, on va redescendre avec la chronologie des médias qu'on espère et qu'on souhaite signer à 6 à 8 mois versus 10 à 12 mois. Donc ça, c'est formidable. Tous les plus grands films français sont financés par Canal+. On est le premier financeur. Sur les séries, ben, vous en avez parlé tout à l'heure avec le Bureau des Légendes et avec plus de 50 séries et des créations originales de dingue. Et sur le sport, effectivement, nous n'avons pas la Ligue des Champions, mais nous avons encore toute la Ligue 1 cette année et l'année prochaine. Nous avons la D1 féminine et nous travaillons. Maxime Salana, notre président, travaille avec les gens de Mediapro, qui sont plus d'ailleurs des brokers, c'est-à-dire des vendeurs de droits. La possibilité...
Vous pourriez racheter ces droits.
Exactement. Et vous allez réussir.
Parce que est-ce que vous envisagez que Canal+ puisse
ne plus
survivre,
alors,
ne plus avoir le championnat de France.
Et je suis vraiment, alors, à fois, j'aime le foot, mais je suis un amateur de rugby, c'est consubstantiel de Canal+, le sport.
Justement, c'était une catastrophe, l'annonce quand même du rachat.
C'est consubstantiel, le foot, de notre modèle, puisqu'on est généraliste, c'est-à-dire par rapport à toutes les chaînes, le sport, le cinéma, les séries et les docs. Alors, sur le sport, on a la Formule 1 et on vient d'annoncer MotoGP, donc on se renforce sur les sports mécaniques. On a le rugby, le top 14, bien au-delà de 2 ans. On a également donc la Ligue 1 encore pendant 2 ans. On réfléchit, on dialogue, on négocie avec Mediapro. Mais je reprendrai les mots de Maxime Saada, notre président. On ne peut pas imaginer Canal+ s'en foot dans 3 ans.
Sans championnat de France, d'accord. Sans Ligue 1.
Voilà, d'une manière ou d'une autre.
Vous allez le récupérer.
D'une manière ou d'une autre, en tout cas, vous savez qu'on est à la fois éditeur de chaîne et on est aussi distributeur. Vous avez beaucoup d'abonnés qui sont distributeurs de l'offre Canal.
Vous distribueriez la chaîne de Mediapro.
C'est ce qu'on fait, par exemple. Vous parliez tout à l'heure d'RMC Sport.
Il faut repayer.
Pas tout à fait, parce que quand on voit RMC Sport, nos abonnés satellites, c'est-à-dire les abonnés à Canal, peuvent avoir pour moins de 10 euros RMC Sport.
Il faut quand même payer 10 euros. Puis alors moi, je suis abonné à Canal, mais pas Canal Satellite, donc j'ai été obligé de payer les 19 euros. Hein, donc on en arrive à près de 70 euros pour pouvoir voir du foot.
Alors, c'est pour ça qu'au final, quand vous êtes abonné à Canal+, c'est pas si cher que ça, parce qu'avec tout le cinéma, tout le foot et toutes les séries, on se rend bien compte qu'on a un prix très compétitif à moins de 20 euros.
Au programme en clair qui faisait... qui était la vitrine de Canal+. Pense au grand journal, et là, visiblement, ça ne marche pas.
Alors, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que, je l'ai dit en arrivant, et on l'a dit, d'abord, le clair n'a jamais fait venir des nouveaux abonnés et des abonnés. Il y avait des programmes en clair, et de l'autre, des programmes pour les abonnés. Ouais. C'est-à-dire que les gens payent pour le cinéma,
Gérald Brice, le clair a été créé parce qu'il y avait c'était une difficulté pour faire démarrer Canal+, pour faire connaître Canal. Donc, c'était bien pour faire venir des abonnés. Mais là, on parle des années 85.
Voilà, où il y avait 6 chaînes de 20 ans, de télévision. Donc, je continue. Notre stratégie, nous, c'était, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, on travaillait énormément pour les programmes en clair. On s'est dit, on va se focaliser sur les programmes pour nos abonnés. Mettre de l'argent, notamment pour la création originale. Le Bureau des Légendes, c'est 10 créations originales, comme le Bureau des Légendes, qu'on va. Et en plus, on préachète beaucoup de séries, on pourra en parler tout à l'heure. Et on coproduit beaucoup de. Par exemple, Elena Ferrante, c'est pas une création originale, mais on a coproduit avec HBO et Sky. On aura par exemple le succès en librairie d'Elena Ferrante, l'ami prodigieux. Donc vraiment, on veut mettre l'argent là où les abonnés payent. Sur Leclerc, c'est vraiment une priorité de qualité qu'on a voulu ces dernières années. C'est ce qu'on a avec les émissions, à la fois de Clic avec Mouloud, à la fois les piliers, les émissions sport avec le CFC qui fête ses 10 ans et CRC. Et on voulait une émission ancrée dans l'actualité. Et on a proposé à un des journalistes préférés, en tout cas des abonnés et des Français, c'est Yves Calvi, qui porte le soir. Alors après, vous allez me parler des audiences. Ouais. On monte jusqu'à 200, 220 000 téléspectateurs. Bah, c'est modeste, mais en tout cas, on est très content de l'émission. Et
voilà, enfin, c'est ce qu'on va faire. On
disait même que Maïté Nabirabène, dont on pourra dire un mot, quand elle faisait 800 000, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, vous en êtes très, très
loin. Le monde a changé. Et aujourd'hui, on est entre, effectivement, avec toutes les chaînes de la TNT, etc. Nous, notre priorité, c'est l'abonné. Voilà, la priorité, c'est l'abonné et c'est les programmes d'encrypté.
Pourquoi conserver ces tranches en clair?
C'est aujourd'hui encore une obligation dans notre convention d'avoir des programmes en clair. On a vraiment considérablement réduit le clair sur Canal+, et on a remis de l'argent, effectivement, sur les piliers, sport, cinéma, séries et documentaires, parce que c'est et notamment dans MyCanal, parce que aujourd'hui les usages aussi ont changé. Oui, c'est-à-dire que par exemple sur Canal+ Séries, la chaîne des séries, 50% des téléspectateurs et abonnés regardent sur le linéaire, 50% sur MyCanal,
parce que c'est 50%,
c'est inclus dans l'abonnement. Par exemple, tout à l'heure vous avez dit le Bureau des légendes, saison 4. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux abonnés, vous avez la 1, la 2, la 3 à la demande pour les nouveaux abonnés, pour se remettre dans la série. Et le 22 octobre, ils enchaînent avec la saison 4. Donc, il faut mettre cet argent-là au service de nos abonnés et au service des nouveaux usagers.
Si je comprends bien, si vous en aviez la possibilité, en discutant avec le CSA, vous supprimeriez les tranches en clair?
Pour l'instant,
ça ne sert plus à rien pour vous?
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, en tout cas, nous, c'est une image de qualité. On s'ancre dans l'actualité, parce que c'est vrai qu'on était peut-être parti de l'actualité. Aujourd'hui, on a une opportunité avec Yves Calvi, qui est aussi rediffusé sur CNews. En tout cas, aujourd'hui, on est extrêmement heureux de notre clair en termes de qualité. Et nous, l'audience, vous savez ce qu'on regarde? On regarde l'audience sur abonné. C'est quand un foyer en France est abonné à Canal+, est-ce qu'il regarde ou pas Canal+?
Mais est-ce que
eh bien, je le dis, on fait 10% d'audience sur abonné, c'est-à-dire qu'on fait aussi fort que France 2 et M6 et France 3 sur nos abonnés. Donc,
mais
nous,
est-ce que ça n'a pas été une façon de protéger Cyril Hanouna, d'avoir un programme moins fort sur Canal+, et de ne pas avoir une concurrence s'il y avait un deux cônes en face de Cyril Hanouna? Est-ce que la vraie raison, elle n'est pas celle-là?
D'abord, on est pour la complémentarité des cibles, et c'est vrai qu'on a la chance avec C8 d'avoir une chaîne très jeune, notamment sur les nouvelles générations 15-24, 15-34, 25-49. On appelle ça très bien profilé. Mais au-delà de ça aujourd'hui, parce que Cyril Hanouna est transgénérationnel, donc on fait des programmes complémentaires. Il est évident que l'émission de Yves Calvi est très complémentaire de celle de Cyril Hanouna, qui est l'émission phare. Il faut rappeler que C8, effectivement, fait partie du groupe Canal+, comme CNews, la chaîne d'information, comme C-Star, comme Planète aussi, parce qu'on l'oublie, comme Comédie, comme Polar+. On a en tout une trentaine de chaînes. Et on est le premier éditeur de chaînes thématiques, en plus de Canal+.
Alors moi, je voulais vous poser une question qu'on se pose pas mal. Est-ce que le directeur des programmes, c'est Cyril Hanouna, ou c'est vous? Est-ce que si je dois vendre un programme, est-ce que je dois être coopté par Cyril Hanouna?
Pour
C8 ou pour Canal?
Il y a un directeur de la chaîne que vous connaissez.
Oui, Franck Apieto.
Il s'appelle Franck Apieto. Vous avez un directeur
des antennes. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Est-ce qu'ils se disent que le vrai patron, c'est Cyril Hanouna?
Ils le sont vraiment. D'accord. Et je vous regarde dans les yeux, ils le sont vraiment. Ils travaillent très très bien, d'ailleurs je le dis, que ce soit Vincent Pujol,
c'est bien de le dire.
Ils le sont vraiment. À partir de là, Cyril Hanouna est un animateur plein de talent. Moi, je suis très très fier de l'avoir sur C8, il fait des très bons scores d'ailleurs. Tout le monde parle des scores, mais là il était encore 1,3 million hier sur C8. Après, effectivement, il produit beaucoup d'émissions sur la chaîne, mais la chaîne produit par elle-même d'autres émissions. Je pense à Thierry Ardisson, je pense au doc de Prime Time, et je pense aussi à l'émission de William Lémergie.
Donc vous êtes le vrai directeur des antennes.
Ou par exemple, au tableau. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission.
Oui, on les invite ici. Voilà.
Comment vous gérez les frasques de Cyril Hanouna, ou en tout cas ce qui se passe avec TF1? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Comment ça se règle quand il y a des choses comme ça?
Alors, d'abord, il faut toujours remettre dans son contexte ce qui s'est passé. Parce que Camille Combal et Cyril Hanouna sont très amis, ils ont travaillé ensemble, il y a un affect très très fort. Ouais. Et même les dirigeants de TF1 avec Cyril, il faut comprendre que les deux dirigeants de TF1, je ne vais pas donner leur nom pour ne pas encore mettre du buzz au buzz, ont travaillé avec Cyril et ont fait venir Cyril Hanouna sur C8. Avant qu'il soit à TF1, ils étaient à la tête des programmes de C8 et de Canal+. Ces mêmes dirigeants sont partis à TF1, mais il y a un affect, ce sont des amis au départ. Oui. Donc quand on est amis, on a une relation très très forte. Et après, effectivement, il y a un tiraillement entre TF1 et C8, savoir si les invités doivent venir ou pas, et il y a eu un coup de chauffe. Mmh. On est en direct, Cyril l'a admis, il est allé trop loin, Moi-même, le lendemain, il se trouve que je tombe sur la direction de TF1, on allait tous
au festival. Vous aussi, vous allez dans les salles de sport.
Au festival de La Rochelle pour vendre, Hippocrate, la nouvelle série, pour présenter et vendre nos nouvelles créations. Et on se croise, et donc évidemment, on se connaît tous très bien dans l'audiovisuel. Je vous prie de m'excuser, voilà, c'est des choses qui... D'ailleurs, on l'a dit tout de suite sur le tweet de C8, c'était passé au-delà. Après, on est dans le direct. Voilà, ce sont d'abord des amis qui étaient amis. Je ne sais pas s'ils le sont encore, mais en tout cas, ils le redeviendront demain, vous savez, dans ce métier. Oui. Et je parle autour de la table en connaissant, on se retrouve tous. Hein.
Absolument. Oui, Rémi.
Et avec le CSA, alors, où en sont vos relations? Parce que vous étiez en train de discuter. Il y a ce truc qui a mis un peu d'huile sur le feu entre TF1 et Canal. Est-ce que ça a un peu compliqué les rapports que vous avez avec le CSA, qui n'est pas toujours très sympa avec vous, on va dire?
Alors, là, je ne vais pas... J'ai envie de dire Joker. Non, le CSA fait son travail, nous on fait le nôtre, on essaie de diriger toutes nos antennes le mieux possible. On a toutes les chaînes Canal, toutes les chaînes thématiques, toutes nos chaînes gratuites.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas sympas.
Non, c'est pas ça. C'est compliqué parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une résonance, il y a une surmédiatisation de certaines choses, peut-être au-delà de la réalité. Je pense que nos auditeurs peuvent le comprendre. C'est qu'aujourd'hui, le buzz, ça va très très loin. Donc, c'est vrai qu'on a eu une phase, mais c'était il y a longtemps maintenant avec le CSA, et nos rapports se sont normalisés. Voilà.
J'ai quand même une dernière question qui préoccupe beaucoup nos auditeurs, c'est le démarrage des programmes à 21h, 25, 28, 23 sur C8. Hein. Est-ce que...
Vous êtes recordman. Hein.
Oui. Alors, vous avez remarqué que toutes les chaînes maintenant démarrent
plus
en plus
tard. Oui, justement, mais là, on a un responsable de chaîne, donc on veut savoir si ça vous préoccupe ou pas.
Je pense qu'on va rejoindre les horaires de l'Espagne. On va être à 22h de plus en plus.
Non, mais plus sérieusement, ça agace beaucoup les téléspectateurs.
Et je peux le comprendre, puisque je rappelle qu'on était à 20h35, puis à 20h45. Maintenant, nous sommes tous, toutes les chaînes, nous allons autour de 21h05, 21h10. Nous, on essaye de se tenir à ce 21h10, mais quand en direct, il y a une bonne séquence, on fait attention et je m'en excuse auprès des auditeurs de Sud Radio. On essaiera d'être le plus proche possible. Mais ça veut dire déjà qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Donc c'est bon signe.
C'est sûr, heureusement.
Mais même Canal+, est passé à 21h05 pour nos abonnés, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie dérive. Donc on est plutôt à 21h05, toutes les chaînes d'ailleurs.
Merci beaucoup Gérald Brice-Viret, on vous aurait bien gardé plus longtemps. Ah oui. Mais voilà.
Merci de votre invitation.
Merci à vous. On se retrouve, nous, après les infos, pour commenter l'actualité.
Non, il y a 30 secondes pour convaincre.
Ah oui, il y a 30 secondes pour convaincre. Oui, c'est vrai, j'oublie.
En plus, c'est Canal, les 30 secondes pour convaincre.
Ah bah, dites donc, c'était une spéciale Canal aujourd'hui. Ah bah, dites donc, c'est vrai que j'avais oublié. Allez, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Canal+, ça fait deux fois. Hein. Je pense qu'il y a un message pour vous.
C'est un signe.
On est sur Sud Radio et on est bien sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
30 secondes pour convaincre. Aujourd'hui, c'est Jordi et Martin qui étaient des auteurs du SAV, du service après-vente des émissions de Marie-Fred, et qui présentent sur Canal+, le JT Rapide. 30 secondes pour convaincre, c'est à vous.
Bonjour, c'est Martin.
Bonjour, je suis Jordi.
Alors voilà, tous les soirs sur Canal+, à 20h50, on vous présente le JT Pressé. Mais qu'est-ce que c'est le JT Pressé, Jordi?
Tu vas vraiment faire un lancement.
Ah ouais.
Alors le JT Pressé, c'est un JT en 3 minutes pour ceux qui ont la flemme de regarder ceux de 45 minutes.
Voilà.
Présenté par Julien Bugier, même si Julien Bugier est très joli.
Donc 20h50, juste après l'émission de Maïtena.
Isabelle Moreau.
Ouais, aussi, c'est pareil. C'est en clair et en plus clair sur Canal+. Jordi, une petite blague pour terminer?
Oui, c'est un juif, un arabe et un chinois qui rentrent dans
un bar.
Merci
beaucoup, Jordi.
On les adore hein, sur Canal+.
Ouais.
On les adore.
Ça, super. C'est
à 20h50 tous les jours.
Ouais, je ne vais pas poser la question de l'esprit Canal. Ça reste ce qui était l'esprit Canal.
Oui,
il y a eu un esprit Canal.
L'esprit Canal, pour les abonnés, je le répète, c'est le cinéma, les séries, c'est le bureau des légendes, c'est 120 battements par minute, c'est tous les box-office, c'est les documentaires et le sport aussi. C'est ça l'esprit Canal.
Qu'est-ce qu'on regarde à la télé, Rémi, ce soir? Esprit criminel sur TF1, Nina.
Alors, si on parle des paris, Esprit criminel arrive en tête. Il y a Nina sur France 2, Charles Aznavour l'intégrale sur France 3, Les nouvelles aventures de Cendrillon sur Canal,
La grande
pâtissier
librairie.
Sur M6, La grande librairie, et puis sur les chaînes TNT, Strike contre Burger Quiz, La revanche.
Regardez Strike sur C8.
Avec il commence gaffe. À 21h12, hein, oui. Maximum.
21h09, j'ai l'horaire.
Et ben moi, je parie sur Nina, qui est une série médicale qui fonctionne très très bien. C'est la Septième saison sur France 2.
En deuxième position, j'ai
dit. Non, en première position.
Bon, vous allez encore perdre. Esprit criminel. Moi, je dis qu'Esprit criminel arrive en tête.
Ce sera Nina. Je prends les paris.
Eh bien, on verra demain. Merci beaucoup. Merci, Gérald Brice.
Merci de votre invitation.
On se retrouve, nous, tout à l'heure pour commenter l'actualité, en particulier le départ de Gérard Collomb et l'incroyable passation de pouvoir qui a eu lieu ce matin.